pour allumer ça, je pense. Alors, c'est quoi la place qui revient au Seigneur? Première, toute la place. On a de la place pour d'autres choses. C'est drôle, hein? Parce que d'habitude, quand on remplit avec une chose, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Mais c'est pas de même avec Dieu. Quand Dieu remplit, ça donne de la place pour tout le reste. L'amour pour les prochains, pour l'Église, pour la famille, etc. Spécial, hein? Donc, aujourd'hui, on va continuer et terminer la série sur les doctrines essentielles. Et là, je vais avoir besoin de vous autres un petit peu parce qu'on m'a demandé de faire un résumé. Donc, je veux qu'on fasse le tour ensemble. Les premières, on les a vues souvent, donc vous devriez les connaître. Mais avant ça, pourquoi sont essentielles? Pourquoi c'est des doctrines essentielles? Là, ça va me prendre l'interaction. On pourrait vous réveiller un matin. C'est moi qui s'est réveillé le dernier, là, matin, là. Fait que vous devriez être, correct. Alors, pourquoi sont essentiels? C'est la base, OK. Essentiel à quoi? OK. Je m'attendais qu'il y en ait qui disent au salut. C'est pas nécessairement au salut. Vous allez voir certaines doctrines. On pourrait ne pas les comprendre ou ne pas les croire ou ne pas les croire dans le sens qu'on les, peut-être qu'on les comprend pas ou quoi que ce soit et être sauvé quand même. Il y en a qui, des doctrines que les gens, exemple sur la croix, le larron sur la croix, il n'y avait pas toutes ces doctrines-là. Il était sauvé quand même. Ceci dit, si on veut marcher dans la vie chrétienne, si on veut connaître le seul vrai Dieu, c'est important de connaître ces doctrines-là. Donc, allons-y avec la première. Si vous vous rappelez, l'unité ou l'unicité de Dieu, qui dit quoi? Un seul Dieu. Ça commence bien, ça commence là. Et ça implique quoi, ça, qu'il y a un seul Dieu? Vous rappelez-vous? Qu'est-ce que ça implique qu'il y a un seul Dieu? Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Pas grand-chose un matin, on dirait. Ça change quoi qu'il y a un seul Dieu? Pas ailleurs. On en avait parlé. Là, anciennement, il y avait plusieurs dieux, puis là, ben, un dieu pour chaque chose. On a besoin d'agriculture, on va voir un dieu, etc. Il y a un seul Dieu. On ne peut pas se tromper. On va à lui. Pas besoin de passer par des intermédiaires non plus, comme certains vont prétendre. Il y a un seul Dieu. Puis ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Hein? S'il y a plusieurs dieux, il y a une espèce de hiérarchie et tout ça. Non. Il y a un seul Dieu. Au-dessus de tout. Et c'est lui le Dieu aussi, comme ça dit ici, c'est lui le Dieu qui est créateur. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus haut. On va juste à un, mais ce n'est pas des avantages, c'est un avantage. Hein? On va directement à la source, directement au plus grand. Mais, ce Dieu-là, qui n'est pas une opposition, mais une complémentarité, il est triple unique. La triunité. Donc, c'est le deuxième point, la deuxième doctrine. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, est appelé Dieu, bien sûr. Mais le Fils est appelé Dieu. Et le Saint-Esprit est appelé Dieu. Et il n'y a pas de contradiction. Et parfois, ça dépasse notre compréhension. Puis moi, je dis, amen, c'est correct que ça dépasse ma compréhension. Parce que si Dieu ne dépassait pas ma compréhension, il ne serait peut-être pas si illimité, si infini que ça. Hein? Mais qui dépasse ma compréhension, c'est bien correct. C'est un Dieu éternel, c'est un Dieu infiniment grand. Donc, je n'ai pas de problème avec ça qui dépasse qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que ma compréhension, limitée dans le temps, limitée dans l'espace, peut comprendre. Donc, un seul Dieu qui est à trois personnes. Et ça change quoi? Ah oui! Rajouter ici, oui. Pas trois rôles, trois états ou trois étapes. Parce que oui, il y en a qui vont dire ça. Hein? Dieu, le Père, est dans le ciel. À un moment donné, il a pris une forme humaine. Et après ça, il est remonté au ciel. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est trois étapes différentes de la même personne. Où ils vont donner l'exemple d'un Père qui est aussi travailleur ou qui est maire de la ville ou des choses comme ça, c'est trois rôles. Non, c'est vraiment trois personnes distinctes. Et plein de passages à la parole montrent les trois simultanément. Donc, ce n'est pas un seul être qui a trois rôles ou des choses comme ça, mais vraiment trois personnes distinctes. Et ça change quoi? Bien, Dieu par nature, dès les premiers chapitres de la Genèse, hein, est au pluriel. Dieu, c'est un être de relation. Il est déjà en relation avec lui-même, hein, en étant trois. Et il va être en relation aussi avec nous. Il a choisi de nous créer, comme j'ai écrit ici. Il n'était pas obligé. Il était déjà pas seul, il était trois. Et il a même créé les anges après ça. Mais il a choisi de nous créer quand même, sachant qu'est-ce que ça pourrait coûter. Ça coûtait cher. Pas en termes d'énergie, là. Son énergie, pas de problème pour ça, pour la création. Mais sa propre vie plus tard. Mais il a choisi de le faire. Il va être en relation avec nous. Ça change quoi aussi? Bien, on va en parler plus tard, mais ça veut dire que Dieu lui-même, si le Fils est Dieu, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la croix. Dieu lui-même qui est mort. Il fallait qu'il y ait un corps humain pour mourir. Ça, on en parle plus tard. Troisième point. Ça, c'est le négatif. La dépravation humaine. Et ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Bof, peut-être personne n'aime ça. On n'aime pas ça, ne pas être parfait. Hein? Péché. Mais ça va plus loin que ça, la dépravation humaine. C'est quoi? On est foncièrement, de nature, à la base, dès la naissance, et corrompu. Il n'y a rien qu'on peut faire, aucune bonne œuvre qui peut plaire à Dieu par nous-mêmes. Hein? Comme c'est écrit ici, on ne pourra jamais être assez bon. Le verset que j'aime dans Ésaïe, qui dit que toute notre justice, tout ce qu'on peut faire de bien, c'est comme un vêtement souillé. Ça ne donne pas grand-chose, hein? Pas très, très... assez répugnant, ça. Donc, rien de positif dans ça. Donc, peu importe ce qu'on peut essayer, puis essayer, puis essayer, puis essayer, la meilleure personne sur la terre, on ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas un concours de celui qui fait le plus de bien, quoi que ce soit. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire du bien. Bien sûr. Mais aux yeux de Dieu, tant qu'on n'a pas passé par Jésus, ça ne vaut rien. Donc, ça change quoi, ça? Qu'on ne peut pas rien faire pour être sauvé, qu'on ne peut pas rien faire de bien? Bien, on doit prendre conscience de deux choses importantes. La première chose, on a absolument besoin du sacrifice de Jésus. On ne peut pas plaire à Dieu sans ça. Encore une fois, vous allez voir qu'il y a plusieurs points qui se recoupent. Mais on a absolument besoin du sacrifice de Jésus. On ne peut jamais plaire à Dieu sans ça. C'est par sa grâce seulement. Ça prend la grâce de Dieu. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour plaire à Dieu. Ça, c'est le premier constat. Quand on annonce la bonne nouvelle, souvent, vous allez voir les quatre pots, des choses comme ça. C'est reconnaître justement ça. Si on ne reconnaît pas ça, on ne reconnaît pas qu'on a besoin d'un sauveur. Si on n'a pas conscience qu'on ne peut pas rien faire par nous-mêmes. La deuxième chose que ça implique, et ça, des fois, on a plus de misère avec celle-là en tant que chrétien. C'est que même une fois sauvé, il n'y a rien qu'on peut faire pour lui plaire plus. Ou rien qu'on peut avoir fait qui va faire qu'il va nous aimer moins, si vous préférez. On ne parle pas de sainteté ici, c'est important. Vivre la vie chrétienne, ça demande la sainteté. Mais il faut quand même être conscient, comme nous autres en tant que parents, nos enfants, oui, ils peuvent faire des affaires qui vont nous plaire. On est content quand ils en font. Mais est-ce qu'on les aime plus ou on les aime moins s'ils ne font pas exactement ce qu'on lui demande? Non. C'est la même chose pour Dieu. Ce n'est pas par nos mérites qu'on peut avoir le salut. Ce n'est pas plus par nos mérites qu'on peut avoir l'approbation de Dieu. On l'a déjà si on est ses enfants. Ceci dit, on essaie d'obéir quand même. Mais autrement dit, la bonne nouvelle, c'est que si on échoue, on ne va pas se cacher comme Adam et Ève ont fait. On peut venir à Dieu qui va nous accueillir tout le temps. Quatrième point, la naissance virginale de Christ. Virginale veut dire quoi? D'une vierge. La naissance virginale elle-même, c'est un miracle. Ça a été annoncé dans l'Ancien Testament par Ésaïe, entre autres. Mais juste ça, c'est un miracle. Mais ça va plus loin que ça. Et c'est là qui est important, le point. C'est pour ça que ça tombe dans les doctrines essentielles. Qu'est-ce que ça implique que Jésus soit né d'une vierge? Vous en rappelez-vous, si on lit? Ça l'impliquait quoi? Comment? Oui, c'est un miracle, on l'a dit. Mais quoi d'autre? Ça l'implique quoi? Il n'y a pas la nature pécheresse, hein? C'est écrit. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Ça, c'est le deuxième point que j'écris là. On appelle Jésus le Fils de Dieu, pourquoi? Bien, Joseph, c'est pas son père, désolé. Il l'a adopté, oui, mais c'est pas Joseph son père, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Trinité, hein? Partout, il y a la Trinité. Quand on commence à comprendre la Trinité, on l'a partout. La création de la Trinité est là. À la naissance de Jésus, c'est qui? Le Saint-Esprit va venir sur toi, et ça, là, l'enfant va être appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, et bien sûr, le Fils lui-même. La Trinité est là partout. Mais ça implique quoi aussi, ce qu'on vient de mentionner? Jésus n'a pas eu le péché originel qu'on a eu depuis Adam, parce que c'est transféré, bien sûr, société patriarcale, transférée par le Père. Comme le Père, c'est Dieu lui-même, il n'a pas eu cet héritage-là. Donc, dès la conception, contrairement à nous autres, il était sans péché. Il n'y avait pas la nature humaine qui le faisait tendre vers le péché, comme nous autres on a, la chair. Et le cinquième point va avec celui-là. Il était sans péché, l'absence de péché, mais il est resté aussi sans péché tout le long de sa vie. Donc, il n'y avait pas cette tendance-là vers le péché, et il est resté sans péché. Hébreu dit pourtant qu'il était tenté à toute chose. Donc, c'est pas parce qu'il était au-dessus de tout ça, puis pas de problème, non, non. Il aurait pu, entre guillemets, pécher. Dans le sens qu'il y avait la nature humaine aussi. Mais il n'a pas péché. Et c'est essentiel qu'il n'ait pas péché. Ce que ça dit ici, à cause de notre péché, on ne pouvait pas avoir de relation avec Dieu. Parce que le péché, bien sûr, nous sépare de Dieu. Mais parce que Jésus n'a pas de péché, il était parfaitement capable de nous représenter ou se tenir à notre place devant Dieu. Donc, on va le voir plus tard, mais pour avoir le sacrifice, ça prenait quelqu'un qui était parfait. On ne peut pas payer une dette à quelqu'un d'autre si nous autres-mêmes, on n'est pas capable de payer notre dette. Donc, si quelqu'un doit 1 million de dollars, puis moi j'en dois 10 000, je ne suis pas capable de payer mon 10 000, comment je vais faire pour payer l'autre? Peu importe que j'aille une dette plus petite ou plus grande, si je ne suis pas capable de payer la mienne, je ne peux pas payer celle d'un autre. Donc, ça prenait quelqu'un qui était sans péché, qui n'a pas de dette pour pouvoir payer la nôtre. Donc, c'est essentiel de croire ça. Capacité de Christ à nous représenter, puis nous assurer le salut. Sixième point, la divinité de Christ. Ça rejoint le point 2. Trinité, Dieu, Jésus est Dieu. Donc, Jésus est par essence Dieu. Il est divin, pas seulement un bon enseignant ou un homme juste. Les gens de nos jours vont être d'accord que Jésus existait. Il y a trop de preuves. Vous ne verrez pas de gens sérieux qui vont nier l'existence de Jésus. Mais, ils vont essayer de nous dire que c'est un homme ordinaire. C'est un bon enseignant, c'est un grand prophète, ou des choses comme ça. Tant qu'ils ne disent pas que c'est Dieu, ils sont corrects. À leurs yeux. Ça prend plus que ça. Pour connaître que c'est vraiment Dieu lui-même. C'est pas juste un enseignant, il n'a pas juste apporté un bon exemple, comme certains vont dire, ou apporter un bon enseignement. Quelqu'un de bien, un homme juste, hein, ils ne diront pas qu'il est parfait, bien sûr. Donc, quelqu'un de bien, un Gandhi de ce monde ou des choses comme ça. Hein? Non, Jésus était vraiment plus que ça. Donc, il était, il est bien sûr encore, Dieu. Et qu'est-ce que ça change? Bien, comme j'ai dit tantôt, que Dieu lui-même est venu sur la croix. On a tendance, avec le point suivant, de dire, bien, c'est un homme. Si c'est un homme, il est mort. Il est mort comme n'importe quel autre homme jusqu'à un certain point. Bon, OK, il a été torturé, c'est pas n'importe qui passe par là, mais il est mort. Non, c'est Dieu lui-même, le créateur de l'univers. Hein, il est créé par quoi? Par sa parole. Donc, créateur de l'univers, qui est venu mourir sur la croix. Si on n'appelle pas ça s'abaisser, c'est quoi? S'humilier. Lisez Philippiens 2, hein? Il est venu jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Ça change quelque chose. Si on comprend ça, puis qu'après ça, on pêche impunément, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Hein? On l'a dit tantôt, puis on a parlé tantôt de plaire à Dieu. Sauf que si on voit ça, puis que ça ne change rien, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Et ça va avec la dualité, l'humanité de Christ. Ça me tentait quasiment d'inverser les deux points, mais bon. C'est important de comprendre qui étaient les deux. C'était Dieu lui-même, mais c'était aussi un être humain. Il a choisi de prendre un corps humain. Et en tant que tel, son corps humain était comme le nôtre. Ça le dit, Jésus s'est fatigué, il a dormi. Rappelez-vous de la tempête. Lui était couché dans la barque puis dormait. Il était épuisé. Il avait des raisons de l'être. Hein? Il a transpiré, il a eu faim, il a eu soif. Rappelez-vous quand les disciples ont été chercher la nourriture pendant qu'ils parlaient avec la Samaritaine. Après ça, il était rempli. Hein? Mais il a eu faim, il a mangé. Il a dû se nourrir, il a dû dormir comme n'importe quel autre humain. Il y avait des limitations, il ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps. Donc, il y avait ses limitations humaines, lui aussi. Et ce qui est important ici, ce qu'on a mentionné, sans être pleinement humain, Jésus ne pouvait pas payer le prix du péché humain. Ça prenait Dieu pour payer pour le péché. Mais guess what? Ça prenait un humain aussi pour payer pour le péché. Impossible d'être les deux en même temps. À moins d'être Jésus-Christ. Il y avait les deux natures. Hein? Il devait être divin pour avoir le pouvoir de sauver. Il devait être humain, un, pour pouvoir mourir. Dieu n'aurait pas pu mourir. Mais aussi pour nous représenter adéquatement. Il devait être à la fois divin et humain. Comme dit toujours, hein, le dilemme mini-wheat. Il est les deux. Hein? Il est les deux. Et ce n'est pas 50% homme, ce que j'ai écrit ici, hein? Il n'est pas 50% homme, 50% Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Pleinement Dieu, toutes les caractéristiques de Dieu, mais aussi pleinement humain, toutes les caractéristiques de l'humain. Ce n'est pas moitié-moitié. Et on le dit, les mathématiques avec Dieu sont différentes. Hein? 1 plus 1 égale 2? Non. 1 plus 1 égale 1 pour Dieu. Les deux font une seule chair. Même 3 fois 1, hein? La Trinité. Mais 100% plus 100% égale 100% aussi pour lui. Spécial, hein? Il était les deux. Et ça, c'est important, mettre les deux ensemble. Pourquoi? La seule façon pour les humains de se retrouver leur spiritualité, qu'on a mentionné ici, c'était que Dieu construise un pont. Vous avez vu cette image-là parfois. Hein? Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Dieu parfait ne peut pas voir le péché. Il peut pas être en présence du péché. C'est pour ça que l'Ancien Testament disait à plusieurs reprises, hein, l'homme ne peut voir Dieu puis vivre à cause de la présence du péché. Donc, il y a une séparation entre les deux. Dans le Jardin d'Éden, Dieu parlait avec l'être humain, comme on parle ensemble, jusqu'à ce que le péché arrive. Et là, il était rejeté, il était séparé, il était séparé de Dieu, rejeté du jardin, ce qui est une bonne chose en passant de le mentionner. Hein? Parce que si vous lisez comme faut la Genèse, une des raisons pourquoi il ne voulait pas qu'il soit dans le jardin, pour ne pas qu'il prenne de l'arbre de vie et vive éternellement dans cet état-là. Dieu ne veut pas qu'on vive éternellement dans le péché. Hein? Bonne chose. Donc, on va vivre éternellement, oui, mais à sa présence, sans péché. Donc, présentement, il y a un gouffre. Ou présentement, il y avait un gouffre, je devrais dire. Et Jésus est venu faire le pont entre les deux. Vous voyez souvent cette image-là, la croix qui fait un pont, hein? Mais c'est pour représenter que c'est vraiment Jésus qui a fait ça. Et j'aime ça, cette série-là, parce que ça nous remet dans les choses essentielles. Ça permet aussi peut-être à certaines personnes qui entendent pour la première fois, je pense à ceux entre autres qui écoutent aussi, de connaître les choses de Dieu, l'importance. Le plan du salut, c'est ça, hein? Reconnaître qu'on est pécheurs de un, de deux, que Jésus a payé pour nous autres, que c'est lui qui a fait le pont entre les deux. Et pour pouvoir faire ça, ben, il devait être les deux. Pour pouvoir faire la relation entre Dieu qui est saint et entre l'humain, il n'y avait pas le choix d'être les deux. Et ça, c'est pour être le médiateur. Hein? Qu'est-ce que Timothée dit? Paul dit à Timothée, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Sa nature humaine. Un seul médiateur, médiateur. Je demande aux jeunes, ça veut dire quoi, médiateur? Hein? Médi, c'est entre. L'image que je donnais, c'est des joueurs de hockey, entre autres, parmi tant d'autres, qui ont un contrat à un moment donné puis qui ne s'entendent pas. Le gérant ne s'entend pas avec une équipe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent un arbitre. Ils appellent ça un arbitre. Un médiateur, ça serait un synonyme. Et lui, il va négocier entre les deux parties. Bien, c'est ça, hein, le médiateur. Il a négocié entre les deux parties. Et pour pouvoir négocier entre les deux parties, il fallait qu'il y ait accès aux deux parties. À Dieu et aux hommes. Donc, lui seul pouvait le faire avec ses deux natures, la nature humaine, la nature divine. C'est pour ça qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a pas d'autre, non. Pas besoin de passer par un autre, comme la religion malheureusement a enseigné à certains. Hein? On ne peut pas aller à Jésus directement ou à Dieu directement, il est fâché. Il faut passer par sa mère ou par d'autres pour avoir certaines faveurs. Hein? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus dans le temple? Voile déchirée. Qu'est-ce que ça représente, la voile déchirée? La voile, c'était la séparation dans le temple. Hein? Entre le lieu saint, où ce que les Juifs pouvaient aller, et le lieu très saint, où ce que personne ne pouvait aller. Sauf le grand prêtre, une fois par année. Mais pour pouvoir y aller, il devait faire des sacrifices. Un sacrifice pour ses propres péchés, et après ça, des sacrifices pour le peuple, pour aller porter le sang, justement, dans le lieu très saint. Le voile est déchiré, la séparation n'est plus là. Parce que le grand prêtre avec un grand G, a payé. Le sacrifice a été fait. Et là, on a accès auprès de Dieu directement, auprès du trône. Plus besoin de passer par des intermédiaires. On n'a jamais eu besoin, il n'y a jamais eu d'intermédiaire, honnêtement, en passant. Mais contrairement à ce que certains croient, on n'a pas besoin. Huitième point, la nécessité. Les mots sont choisis pas pour rien, hein? Nécessité, ce n'est pas une option. Ce n'est pas on a le choix entre deux choses. Il y en a juste une. la nécessité de la grâce de Dieu. Si on n'a pas la grâce de Dieu, impossible de plaire à Dieu. Impossible d'aller à Dieu. C'est nécessaire. C'est un prérequis. Pourquoi? On l'a vu au point 3. Dépravation de l'homme. Ça aussi, c'est un terme fort. C'est des termes qu'on entend moins de nos jours, hein? Mais dépravation, c'est pas une petite affaire, une petite anicroche, un petit point noir sur une feuille blanche. Non. Un vêtement souillé, complètement. Hein? À cause de ça, ce qu'on a vu au point 3, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. Donc, Dieu nous a offert lui-même le cadeau, le pardon, la vie éternelle. C'est une grâce. Et si je demande aux jeunes, parce que je l'ai demandé plusieurs fois, ils commencent à le savoir, vous autres, la savez-vous, c'est quoi une grâce? Comment? Cadeau gratuit qu'on ne mérite pas. Hein? Et c'est souvent la définition que je donne, hein? La différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce, c'est qu'on reçoit ce qu'on ne mérite pas. La miséricorde, c'est qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. On mérite le châtiment, on mérite l'enfer, on mérite la mort, on ne le reçoit pas. On ne fait juste pas le recevoir, on reçoit quelque chose en plus. On reçoit la vie éternelle, on reçoit le pardon, on reçoit l'adoption. Des grands termes ce matin, hein? L'adoption. On est adopté dans la famille de Dieu. J'en ai jamais adopté. C'était notre objectif quand on se fréquentait, ma femme et moi. On ne l'a pas fait. Mais s'il y en a qui ont déjà adopté, un enfant adopté, tu le traites au même niveau que les autres. Hein? Tu l'aimes de la même façon que tes propres enfants de chair. Eh bien, imaginez-vous, c'est ce que Dieu a fait avec nous autres. Il y avait un fils unique, mais maintenant, il en a adopté plusieurs, des fils et des filles. Il nous traite au même niveau que Jésus lui-même. Si ça, ça nous laisse indifférent, mettez-vous à genoux. La grâce de Dieu, seulement par sa grâce. Sola gratia, hein? C'est la grâce seule. Pas d'autre chose que ça. Toutes les religions, ça veut dire que je suis dû pour prendre une gorgée. La langue tourne, là. Toutes les religions, c'est l'être humain qui essaie d'atteindre Dieu. La vie chrétienne, c'est Dieu qui descend jusqu'à nous. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est un cliché, entre guillemets, mais c'est une réalité pareille. Ce n'est pas une religion qu'on a, c'est une personne. On ne peut pas atteindre Dieu. Peu importe les cérémonies, peu importe les voies qu'on va faire, les règles qu'on va suivre, on n'atteindra pas Dieu. Il a fallu que Dieu fasse le chemin inverse, que lui descende jusqu'à nous autres. C'est le seul moyen de nous rejoindre. Donc, c'est Dieu qui est descendu jusqu'à nous autres. C'est ça, la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, point 9, il faut la savoir par la foi. C'est quoi la foi? Hébreux 11 va nous dire que la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas. OK, une définition. Une définition que j'ai entendue souvent quand j'étais jeune. Acte 16, 32, si ma mémoire est bonne. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. OK. Mais ça veut dire quoi, croire? Et malheureusement, en français, des fois, il y a des petites nuances comme ça. On a une langue très riche pour faire des détails. Mais en même temps, des fois, ça peut être confondant, comme dans ce cas ici. Croire, c'est quoi? C'est dire, oui, je crois que Jésus existait. Oui, je crois qu'il est mort sur la croix. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. La foi ou croire, dans le texte original, c'est quoi? S'attacher fermement. Saisir fermement, puis retenir. C'est pas juste quelque chose de la tête. Hein? Jean nous le dit, même les démons croient, ils tremblent. Peut-être un peu plus intelligent que bien des êtres humains. Hein? Au moins, les autres, ils tremblent. Non, la foi, c'est vraiment de saisir, de s'accrocher à Jésus. Mettre notre confiance en lui. Une autre définition qu'on entend. Mettre sa confiance. J'aime le français là-dessus. Hein? Les verbes. Il y a des verbes qui sont passifs. On reçoit l'action. Il y a des verbes d'action. Mettre sa confiance, ça demande une action. C'est un verbe d'action. On ne peut pas rester passif, mettre sa confiance en ne bougeant pas. Non, ça demande de l'action. Ça demande un engagement de cœur, de tête envers Dieu. Et dans notre quotidien aussi. De dire, comme j'ai déjà entendu, quand j'étais jeune, c'est pas récent. Hein? Des gens qui, ma mère entre autres, qui a vu une personne à un moment donné, puis, t'es pas chrétien, toi? Ça lui se perd pas, hein? Donc, la réponse, c'est quoi? Ouais, mais j'ai cru. J'ai cru un moment donné en 1982, là, fait que je suis sauvé à vie. J'ai mon billet. Non, c'est pas ça, croire. Croire, c'est s'attacher. S'attacher fermement. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Hein? Donc, il n'y a rien qui peut nous faire décrocher. Le seul qui peut décrocher, c'est si nous autres, on lâche. Donc, je ne suis pas en train de parler de la perte du salut ici. Ceci dit, c'est de s'accrocher. C'est pas de croire à un moment donné, puis j'arrête de croire, puis pas de problème, j'ai été sauvé. J'ai mon billet. Non. C'est pas une carte de membre, puis qu'on peut faire ce qu'on veut avec, là. C'est une relation qu'on a avec Dieu. C'est ça, la foi. La foi, c'est un acte de notre part, mais c'est pas une œuvre, bien sûr. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi seule. Ça fait que c'est pas compté comme une œuvre, on fait juste recevoir le cadeau. On saisit le cadeau. Donc, c'est pas une œuvre. Parce que Paul le dit clairement, si c'est une œuvre, selon ce que certains croient, on peut devoir faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Sinon, ben, on va aller payer en attendant que ça s'équilibre. Non. C'est pas par nos mérites. Sinon, comme dit Paul, c'est un salaire. C'est une récompense de quelque chose qu'on a fait. Il n'y a rien qu'on peut faire qui peut nous faire gagner. On doit mettre notre foi ou notre confiance, non dans ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Couteau deux tranchants, hein? Ça nous enlève un fardeau de devoir faire quelque chose. Mais ça nous enlève un fardeau aussi de dire que j'ai pas besoin de faire quelque chose de spécifique, à part le recevoir, bien sûr. Et on avait mentionné aussi pourquoi que les gens avaient de la misère avec ça. Une des raisons pourquoi que les gens ont de la misère avec ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter de, un, qu'ils sont pécheurs, s'humilier et tout ça. Mais des fois aussi, ils ne veulent pas accepter que c'est juste, voyons, c'est bien trop facile. Hein? Et on avait vu, si vous vous rappelez, l'image du serpent d'airain dans le désert. Tout ça en passant, c'est sur Internet présentement, c'est disponible. Mais l'histoire du serpent d'airain, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire des Israélites? Regardez. À moins d'être aveugle, là, c'est quelque chose d'assez facile. Tout le monde est capable de faire ça. Et comme j'ai mentionné, est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui ne l'a pas regardé, il va arriver au ciel ou en enfer, ou je ne sais pas, il va être acclamé, « Yes, toi, tu as tenu ton idée! » Non, ils vont juste dire, « Voyons, bozo, tu avais juste à le garder, tu ne seras pas mort. » Bien, c'est la même chose. Je ne traiterai pas de bozo, mais... hein? Vous avez juste à mettre votre confiance. Il y a un terme en anglais, je ne sais pas, on ne peut pas le traduire, je pense, en français de la même façon. Hein? Try me. On pourrait dire en français, un verset de l'Ancien Testament, « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. » C'est ça que Dieu dit, hein? « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. » On peut vous lancer le défi aujourd'hui si vous n'avez pas fait ce pas-là. Mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez s'il existe. si vous accueillez tout ça. Hein? Dixième point, la mort expiatoire de Christ. C'est essentiel, ça aussi. Et ça fait partie des points essentiels, entre autres, la grâce, la foi, celui-là, pour être sauvé. Sans ça, pas de salut. Par notre péché, on mérite la mort. On l'a déjà mentionné, la séparation d'avec Dieu. La mort physique, oui, mais la mort spirituelle. Hein, on mentionnait à ce point-là que Adam et Ève, Dieu leur avait dit, si vous touchez au fruit de l'arbre, quand je vous ai défendu, vous allez mourir. Ils ne sont pas morts. Ils sont morts plus tard, physiquement parlant, mais spirituellement, ils sont morts dès cet instant-là. Parce que c'est quoi la mort? C'est aussi la séparation d'avec Dieu. En fait, un jour, tout le monde va ressusciter. On parle de la vie éternelle, mais tout le monde va avoir la vie éternelle, dans le fond. La vraie vie éternelle, c'est dans la présence de Dieu. Mais tout le monde va vivre, entre guillemets, éternellement. Mais certains, séparés de Dieu. Donc, ça va être ça, la mort éternelle. La mort éternelle, c'est pas qu'il va être éternellement mort, enterré et qu'il n'y a plus rien. Non, ils vont être éternellement séparés de Dieu. Donc, c'est ce qu'on mérite par nous-mêmes, à cause du péché. Mais la peine que nous devons à Dieu a été payée par Christ, par sa mort sur la croix. Dieu n'est pas injuste en exigeant un paiement. Au contraire, il est juste. Quelqu'un qui commet un meurtre, il va tout simplement passer en cour, puis on ne dira pas, on ne criera pas à l'injustice, il est condamné. Hein? Au contraire, s'il n'est pas condamné, on va crier à l'injustice. Donc, que Dieu nous condamne, ce n'est pas injuste. C'est tout à fait juste. On a désobéi à la loi. Le paiement pour payer notre dette doit être parfait, complet, sans faute. Et c'est pour ça que ça devait être Dieu lui-même qui était parfait, comme on a mentionné dans d'autres points. Expiation, on a mentionné, ça voulait dire différentes définitions, disons-le comme ça. La première définition, c'était couvrir. Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Bon, si moi je m'en rappelle, à quelque part, il doit s'en rappeler. Il n'est pas limité dans le temps, quoi que ce soit. Il couvre les péchés. Il ne voit plus. La définition aussi de ôter, effacer, expier. Donc oui, il est autre. Quand on dit qu'il ne voit plus, on pourrait jouer sur les mots. Est-ce qu'il les a couverts, c'est pour ça qu'il ne voit plus? Est-ce qu'il les a vraiment oubliés? Je pense qu'il peut choisir de les oublier, en tout cas. Donc, on pourrait dire qu'il les oublie, oui, pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, qu'il les ôte, qu'il les efface, ça n'existe plus. Parce que le sang de Jésus est assez puissant pour ça. J'ai pas de problème avec ça. Il choisit de plus s'en souvenir. Il choisit de ne pas en tenir compte. Il y a des conflits parfois entre hommes et femmes, hein? Mari et femme. On pardonne, mais... Ça ne prend pas grand-chose des fois pour le ramener à la mémoire. Lui choisit de l'oublier. Page blanche. On recommence à zéro. Ça peut aussi signifier d'être puni quand on expie nos fautes. Nous autres, on ne l'est pas. Parce que lui, il l'a été. Il était puni à notre place. C'est ça la mort expiatoire. Sa mort, ce n'est pas juste être une mort, autrement dit, comme n'importe quel autre humain, qui meurt soit physiquement à cause de la maladie ou qui meurt pour ses propres péchés, comme dit certains écrits. Il n'est pas mort. Oui, il est mort, si on regarde l'histoire, parce que les chefs juifs n'ont pas trop aimé sa façon d'être, ce qu'il disait. Mais la réalité, c'est qu'il est mort, pas juste pour lui ou à cause de lui. Il est mort, en réalité, pour nous. Et là, la phrase aussi que certains ont mentionnée, ça lui a donné un champ même. Hein? Je ne me rappelle plus si c'est Billy Graham ou quoi, mais bon. Que c'est pas des clous qui ont retenu le Seigneur sur la croix. C'est l'amour. Hein? Son amour pour nous autres. Il l'a dit à Pierre, j'aurais pu appeler mon père puis a renvoyé des myriades d'anges pour le sauver. Tu n'es pas obligé d'aller là. Même si humainement parlant, on pourrait argumenter que c'est des Juifs qui l'ont tué, il n'était pas obligé d'aller jusque-là. Il aurait pu facilement passer par-dessus ça, être délivré de ça. Qu'est-ce que ça change pour nous autres? Bien, absolument tout. On est condamné. De nature, on est condamné. Sans Jésus, on est encore aujourd'hui condamné. Je ne dirais pas si toutes ces choses-là n'étaient pas vraies, parce qu'il n'y en a pas de conditionnel, c'est vrai. Mais si on ne l'a pas accepté, si on décide de payer nous-mêmes, on est encore aujourd'hui condamné. Mais grâce au sacrifice de Jésus, on peut avoir le pardon, l'adoption et la vie éternelle. Il a payé pour tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne sont pas sauvés. Parce que le sang n'est pas suffisant? Non. Parce que les gens ne l'acceptent pas. Ils décident de payer eux-mêmes et Dieu respecte notre choix. Dieu respecte notre choix. Si on veut le vivre par nous-mêmes, si on veut faire nos choses par nous-mêmes puis payer pour nous-mêmes, il va l'accepter. On va le regretter, mais il va l'accepter. Mais si on vient à lui, puis qu'on lui demande pardon, qu'on accepte qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, puis que ça prend son sacrifice, puis qu'on accepte qu'il est payé pour nous, à ce moment-là, on est sauvé. On reçoit le pardon, comme j'ai dit, et l'adoption. On fait partie maintenant de la famille. Comme je disais à un moment donné, hein, c'est pas juste qu'il est arrivé, il a payé notre dette, puis ça finit là. On repart avec la carte de crédit, puis on recommence à la remplir. Non. Il n'a pas juste mis ça à zéro, il a donné par-dessus. Il n'a plus de dette, mais maintenant, on a les ressources infinies. Je n'aurai plus jamais de dette. Il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné le sang qui nous couvre chaque jour, comme dit l'Épître de Jean. Si on marche dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous pardonne de tout péché. Donc, plus jamais de dette. Ça ne veut pas dire de ne pas demander pardon. C'est pas ça que je dis. Mais il n'y a plus jamais de dette. Onzième point. Il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Tellement important. Tellement important. À la limite, comme je disais, on pourrait dire, ben oui, il est mort, il a payé la dette, puis ça finit là. Notre dette est payée. Mais le plus qu'on a, c'est grâce à ce point-là. Il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Résurrection, ça a différentes implications. Premièrement, c'est le sceau qui démontre que Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. Pour les Juifs, ils étaient convaincus que Jésus était maudit. L'Ancien Testament dit quoi? Maudit est quiconque est pendu au bois. Pour les Juifs, Jésus est abandonné. Il avait raison. Il a condamné. Jésus est mort. Dieu ne l'a pas approuvé. C'était vraiment blasphémateur. Fin de l'histoire. La résurrection démontre que non, Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. Dieu a approuvé la vie et le sacrifice de Jésus. Et il l'a ressuscité. C'était vraiment le Fils de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, la résurrection, c'est aussi une preuve que nous autres aussi, on va ressusciter un jour. Paul met les deux ensemble, notre résurrection puis celle de Christ. Si nous autres, on ne peut pas ressusciter, Christ n'est pas ressuscité, que Paul va dire. Le contraire est aussi vrai. Si Jésus y est ressuscité, c'est que nous autres aussi, on va l'être. S'il avait le pouvoir de ressusciter Jésus, il a le pouvoir de nous ressusciter nous autres aussi. Donc, tout ce qui est dit, qui nous prépare une place et tout ça, c'est vrai. Donc, c'est les deux implications au niveau de la résurrection. Et Paul l'a dit, hein? Sans la résurrection, Jésus n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Et toute notre foi est vaine. C'est la base. C'est pas pour rien que Satan, c'est ce qui va attaquer en premier. Hein? Divinité de Jésus et tout ça, mais surtout aussi la résurrection. Et toutes les gens, comme je vous disais tantôt, vont être d'accord pour dire que oui, Jésus a vraiment existé. Oui, Jésus, c'est un grand homme. Peut-être pas Dieu, mais grand homme. Oui, Jésus est mort. Ça, c'est assez évident. Hein? Même ceux, il n'est pas vivant aujourd'hui, il ne le voit pas. Mais ressuscité, oups, là, ça va bloquer. C'est un miracle. On ne peut pas avoir des miracles. C'est le plus grand des miracles. La création et la résurrection sont les deux plus grands miracles. Point 12. Après la résurrection, 40 jours après, pour être plus précis, il a été enlevé corporellement au ciel. Il est ressuscité corporellement. Il l'a montré, hein, entre autres à Thomas, qui a dit de venir mettre sa main. Il lui a demandé de manger pour lui prouver que ce n'était pas juste un esprit. Chose importante. Donc, avec ce corps-là, un corps parfait, un corps spécial, il est monté au ciel. 40 jours après, à la Pentecôte. Bien, un petit peu avant la Pentecôte, pardon. Et qu'est-ce qui s'est dit? Qui va venir de la même manière. Hein? Donc, il était monté au ciel. Qu'est-ce que ça implique, le fait qu'il soit au ciel maintenant? Parce qu'il est monté vers le Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et moi, ça m'a toujours frappé, comme je vous dis, hein, qu'il nous dit que c'est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, c'est avantageux que Jésus ne soit plus là, mais que le Saint-Esprit soit là. Alors que, dans ma nature, moi, je vais parler pour moi, j'aimerais bien ça que Jésus soit là à côté de nous autres, hein, parmi nous autres ce matin, physiquement parlant. Mais non, il dit que c'est avantageux qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit soit là. Avantageux pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Pas juste parmi nous, il est en nous. Il est à nous partout où on est, et en chacun de nous. Tous les chrétiens, toute la terre en même temps. Pas un endroit précis. Donc, c'est avantageux. Donc, le Saint-Esprit nous guide maintenant, nous montre où nous avons tort et nous réconforte lorsque nous souffrons. C'est appelé le consolateur. Hein? Le fait que Jésus soit levé vers le Père signifie que notre vie est gardée en sécurité au ciel avec Dieu aussi. On va le voir avec le prochain point. Parce que le fait que Jésus soit monté au ciel et qu'il soit assis à la droite de Dieu, position d'autorité en passant, ça implique quoi? Que maintenant, il intercède pour nous. Intercède comme médiateur, c'est quoi? C'est inter, hein? Entre deux. Pas besoin d'un autre intercesseur, pas besoin d'un autre médiateur. Jésus est là. L'ascension corporelle du Christ a permis de servir de médiateur ou de grand prêtre devant Dieu. En présence de Dieu, le Christ prie continuellement pour nous. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Il prie continuellement pour nous. Il l'a fait quand il était sur la terre, entre autres, ce qu'on a appelé la prière sacerdotale, Jean 17. Peut-être quand il était dans le jardin de Gethsémané, on ne sait pas. Ou ce qu'il prie pour les disciples, il prie pour ceux qui vont croire à cause d'eux autres. Ça fait partie de nous autres. On fait partie de ça. Et aujourd'hui encore, il prie pour nous autres. Il intercède pour nous autres auprès du Père. Il intercède de différentes façons. Première façon, en tant que grand prêtre, il intercède pour le pardon des péchés. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a pas besoin de plaider avec Dieu à chaque jour pour chacun qui nous pardonne. Non, non, le sang il est déjà là, le sacrifice est déjà là, le pardon est déjà là. Mais c'est grâce à ça, à son sacrifice, que le pardon il est là. Donc, c'est une intercession qu'il a faite pour nous autres. Mais aussi, comme il a fait sur la terre, Jean 17 que je viens de mentionner, il prie pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous, nous aide dans nos prières. Mais le Fils aussi intercède pour nous. Il intercède face à nos requêtes de prière quand on demande quelque chose. Il agit. Parfois, on prie Dieu, on prie Jésus. Donc, il intercède pour nous autres. Mais il intercède aussi d'une autre façon. Un Jean parle de notre avocat. Et Apocalypse parle de celui qui nous accuse jour et nuit, Satan. Donc, il intercède contre lui, celui qui nous accuse, qui est Satan. Toujours, constamment, notre conscience et Satan en profitent avec pour nous accuser. Jésus est là pour intercéder pour nous. C'est notre avocat auprès du Père pour nous défendre, l'avocat de la défense. Donc, le fait qu'il soit auprès du Père, il est là pour ça. Et on arrive au dernier point. La 14e et dernière doctrine essentielle, la seconde venue du Christ. C'est drôle, hein, parce que Stéphane en a parlé la semaine passée, du retour. Et quand je pensais à ce point-là, si vous voulez, vous pourrez aller l'écouter, je pensais à une prédication que j'avais faite à un moment donné. J'avais intitulé « Le retour du roi ». C'est un petit peu emprunté à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais c'était ça, le retour du roi. Entre autres, je parlais de le roi Charles, quand il a été assermenté et tout ça. Toute la procession autour de ça. Et c'est la fête. Ça va être la fête, le retour du roi. C'est quoi le retour du roi? C'est quoi le retour de Jésus? C'est l'époux qui s'en vient chercher son épouse. Pensez à la parabole des 10 vierges, hein? C'est comme ça que ça se passait. Il attendait l'époux. Quand l'époux arrivait, là, la fête commençait. Bien, c'est comme ça. Le festin des noces de l'agneau nous attend. Amen. L'époux, il est prêt. Il va venir bientôt chercher son épouse pour être avec lui. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Tout comme le Christ a quitté le monde physiquement, il va revenir de la même manière. C'est ce que les anges ont dit aux apôtres. Hein? Pas besoin de rester les yeux au ciel. On ne fait pas juste attendre les bras croisés, puis il va revenir. C'est ce que les Thessaloniciens faisaient, puis Paul les a reprochés. On doit agir. Mais il va revenir de la même manière. Puis qu'est-ce que ça dit aussi? Tout œil le verra. Pas besoin de s'inquiéter, on va le voir. S'il revient de notre vivant, on va le voir. Il va revenir de la même manière sur les nuées du ciel. Sa seconde venue est l'espoir du monde. La condamnation pour certains, les autres, ils ne l'aiment pas, cette venue-là, ils ne la veulent pas. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est ça notre espoir. Notre espoir, c'est d'être avec lui pour toujours. Ceux qui sont déjà décédés, ça va être la résurrection puis d'être avec lui. Mais ceux qui vont être encore vivants, est-ce qu'on va en faire partie? Dieu seul le sait. Mais ceux qui sont encore vivants, c'est ça notre espoir. C'est ça notre but final, notre but ultime. Et qu'on soit encore vivant, qu'on ne soit pas vivant, lorsqu'il va revenir, on va tous ressusciter. Donc, on va tous être au même niveau. Ceux qui vont être encore vivants, dit Paul, hein? Je pense que je l'ai même ici. Ouais. Donc, les morts vont être ressuscités, je l'ai mentionné ici. Ceux qui vont être vivants, ils vont être transformés. Donc, on va avoir le même corps, qu'on soit vivant ou mort. Quand le Seigneur va revenir, on ressuscite ou on est transformé avec un nouveau corps. On va avoir le même corps après ça, à ce moment-là. Un corps physique immortel. Fait que oui, ça va être un corps physique. On n'est pas comme des esprits, des fantômes ou quoi que ce soit. Ça va être un corps physique comme Jésus avait. Corps physique spécial, parce qu'il était capable d'apparaître au milieu des disciples, même avec les portes barrées. Mais c'est un corps physique quand même. Le retour corporel du Christ sur terre sera visible pour tous. On pourrait dire, des fois, « Ah, j'ai hâte! Hein? » Puis, mais quand ça va arriver, on va pouvoir dire, « Nya, nya, je te l'avais dit. » Mais je pense qu'on n'aura pas le goût de faire ça. Alors, premièrement, on va, je pense, juste se réjouir de le voir. On va probablement tomber sur la face, comme certains ont fait quand ils l'ont vu, hein? Mais si, je dis bien si, on a une pensée pour ceux qui ne sont pas sauvés, je ne pense pas qu'on les nargue. De voir la souffrance, ce qui les attend. Si on ne prie pas pour les âmes qui ne sont pas sauvées, on n'a pas conscience de ce qui les attend. Parce que si on a conscience de ce qui les attend, si on a conscience de ce qui attend des fois notre propre famille, on ne peut pas ne pas prier pour eux. Les croyants régneront avec lui dans son royaume et vivront avec lui pour toujours. Mais ceux qui ne croient pas seront séparés de la bonté de Dieu pour toujours aussi. L'histoire, est-ce une parabole ou pas? C'est pas mentionné que c'est une parabole, du moins, de l'homme riche et Lazare, dans le sein d'Abraham. Certains vont penser que c'est l'état actuel des choses avant le retour de Jésus. Peu importe. Qu'est-ce que cette histoire-là nous apprend? La logique même, qu'on peut voir nous autres même quand on regarde. Hein? Si le soir, on prend une marche dehors, dans le noir, on a de l'électricité pas mal partout à cette heure, mais s'il manque d'électricité, et qu'il y a des gens dans une maison avec une chandelle, parce qu'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qui se produit? Bien, nous, on peut les voir si les rideaux sont ouverts, parce qu'il y a de la lumière. Eux ne peuvent pas nous voir dans le noir. Bien, c'est un peu ça, je pense, qui va arriver. Nous, on ne les verra pas. Ils vont être dans les ténèbres. On va être dans la présence de Dieu. On va être dans le bonheur. Mais eux vont nous voir. Eux vont voir non seulement la souffrance. Il y en a qui vont dire que la seule personne qui peut connaître l'enfer, c'est un grand brûlé. Je ne pense pas que ce soit des flammes littérales, mais quand même, la souffrance qu'il doit avoir là, terrible. Mais au-delà de la souffrance physique, de voir que nous autres, on va être dans le paradis, on va être dans la présence de Dieu, on va être dans le bonheur, la joie, et que lui, il n'a pas ça, tout simplement parce qu'il a refusé l'Évangile. Le remords qu'il va avoir là, des pleurs et des grincements de dents, dit Jésus. Des regrets. La repentance, ce n'est pas juste un regret, hein, parce qu'il va en avoir des regrets en masse en enfer. Ceux qui ne croient pas vont être séparés de la bonté de Dieu. Il ne faut pas en faire partie. Hein. Qu'est-ce que je dois croire que Jésus va revenir bientôt? Très bientôt, il l'a dit. Et même l'Apocalypse termine avec ça. Hein? Voici, je viens bientôt. Mais autre chose aussi, on doit être prêt. Il y a plein de paraboles que Jésus a mentionnées qui parlent de ça. Les 10 vierges, entre autres, que j'ai mentionnées tantôt. Parabole du voleur. Hein? Si on savait à quelle heure le voleur vient, on se préparait, on ne se ferait pas voler. Toutes ces paraboles-là nous enseignent une chose, il va revenir au moment où on s'en attend pas. Bien, deux choses, ça l'enseigne, celle-là, mais qu'on doit être prêt. Bien, si on fait partie de ceux qui ne sont pas prêts, on ne sera pas enlevé, on ne sera pas avec lui. Prêt, oui, il y a le salut, bien sûr, mais on doit être prêt aussi. Comme on dit, on doit agir comme s'il ne revenait pas de notre vivant, mais en même temps comme s'il revenait aujourd'hui. Combiner les deux. Hein. On doit être prêt à l'accueillir. Jésus parle de deux serviteurs infidèles qui dit « Ah, mon maître tarde », puis il se met à battre ses autres serviteurs, puis à faire ce qu'il veut et tout ça, versus l'autre serviteur qui est fidèle, qui va obéir, qui fait fructifier les talents. Je mélange des paraboles, mais c'est pas grave. Qui fait fructifier les talents et tout ça, puis qui est prêt quand son maître revient. On veut être ce serviteur-là. Pas le premier. L'enjeu, notre espérance, c'est d'être avec le Christ. Et qu'est-ce que ça change? Bien, on va être avec le Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est, dit Paul. On va être transformé à son image parce qu'on va le voir tel qu'il est. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est ce qu'on a hâte par-dessus tout. D'être avec lui et de le voir tel qu'il est. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de souffrance. Mais pas juste un état neutre comme ça, dans sa présence. On va passer l'éternité à le louer, hein? C'est pas pour rien, parce qu'il va y avoir plein de sujets de louange. Dans sa présence, hein? Puis on doit être prêt à l'accueillir. On veut pouvoir l'accueillir. Certains versets, Matthieu 24, 30. Jésus parle, dans Matthieu 24, beaucoup des prophéties, en deux temps, la chute de Jérusalem, mais aussi son retour. Et ça, ça concerne son retour, 24, 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » On a parlé des nuées, il va revenir sur les nuées et tout ça. « Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Oui, parce que la majorité, malheureusement, ne l'auront pas accepté. « Et elles verront le Fils de l'homme, qui est Jésus lui-même, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Il va venir avec une puissance et une gloire. Apocalypse, dernier livre, dernier chapitre, chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » C'est quoi la rétribution? Il y en a qui pensent quasiment que c'est négatif, le jugement. Non, la récompense. C'est ça la rétribution, c'est la récompense. « Ma récompense est avec moi, pour rendre chacun selon ce qu'est son œuvre. » Non pas qu'on est jugé sur nos œuvres pour le salut, mais on est jugé selon nos œuvres, par exemple, les récompenses, oui. Et ça, je l'ai déjà mentionné, hein? À un moment donné, quand j'étais jeune, j'étais ado, je n'étais pas à l'aise avec cette idée-là, les récompenses. Je ne fais pas ça pour avoir des récompenses. Jusqu'à temps que je vois dans l'Apocalypse que qu'est-ce qu'on fait avec nos récompenses? On les lance au pied de la croix, au pied de Jésus. Ah là, j'en veux. Je vais pouvoir y en donner le plus possible. Hein? Luc 12, 40, c'est justement l'histoire du voleur et juste avant des talents. Puis il parle du voleur et il conclut comme ça, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Toutes sortes de prophéties, hein? Ça fait des années, des années et des années. Hein? « Ah, il va revenir en 2000. »« Ah, il va revenir en 2014. »« Ah, on ne sait pas. » À chaque fois que j'entends des choses comme ça, moi je dis une chose. C'est sûr que c'est pas ça. Parce qu'il a dit qu'on ne le saurait pas. Fait qu'on peut être sûr que ces dates-là, ce n'est pas les bonnes. Et d'ailleurs, on est encore là. À l'heure qu'on n'y pensera pas. Pas qu'on ne pensera pas à lui, hein, je l'espère, mais qu'on ne sait pas à quel moment il va venir. Après le retour de Jésus, les croyants vont connaître consciemment la bénédiction éternelle et les incroyants connaîtront consciemment le châtiment éternel. Et là, j'ai mis des versets là, on l'a déjà mentionné. Les non-croyants vont avoir la, entre guillemets, la vie éternelle dans le sens qu'ils vont vivre éternellement, mais séparés de Dieu. Je vous laisse ces versets là. Je complique rapidement. Je vais prendre deux petites minutes pour ça. Je vous disais qu'il y avait 14 doctrines, il y avait deux points supplémentaires. Je vais les mentionner rapidement. Les 14 doctrines sont couvertes, mais bon, comme ça dit ici, où est-ce qu'on connaît ces doctrines-là? Comment est-ce qu'on peut connaître ces doctrines-là? Donc, grâce à la Bible, la parole de Dieu. Croire que la Bible est inspirée, toutes ces choses-là, ce n'est pas nécessaire au salut. Pourquoi, si je résume ce qui est écrit là, il y a des gens qui étaient sauvés avant qu'ils puissent avoir une Bible. Avant les années 1600, il n'y a pas grand monde qui avait accès à une Bible. Et même jusqu'à peut-être les années 1900, c'était assez difficile d'avoir une Bible. Dans certains pays, aujourd'hui, c'est presque impossible d'avoir une Bible. Et pourtant, il y a des gens qui sont sauvés. Donc, ça ne prend pas d'avoir la Bible ou de connaître la Bible pour être sauvé. Mais, par contre, à l'inverse, c'est la Bible qui nous enseigne ces doctrines-là. Donc, ce n'est pas puiser n'importe où et tout ça. Donc, dans ce sens-là, la Bible est essentielle pour connaître ces doctrines-là. Donc, c'est elle qui est le fondement, la seule autorité, hein? Le sola scriptura que vous avez peut-être entendu, l'Écriture seule, qui permet de connaître le plan du salut. Donc, 15e point important, essentiel, c'est de croire en l'inspiration de l'Écriture. L'inspiration, c'est quoi? C'est de croire que Dieu, c'est pas lui qui l'a écrit physiquement. mais c'est lui qui a inspiré par le Saint-Esprit. Hein? Jésus l'a dit, c'est lui qui va nous révéler toute la vérité et tout ça. Donc, c'est Dieu lui-même qui a voulu le livre, la Bible telle qu'elle est présentement. L'enseignement qu'elle contient, ça vient de Dieu. C'est approuvé par Dieu aussi. Et qu'elle contient aussi tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est de là que sont tirées toutes ces doctrines-là. Alors, si on croit vraiment que la Bible est inspirée, qu'elle vient de Dieu, on peut croire aussi qu'elle est immuable, donc elle ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas mentir. Donc, point important, qu'elle est inspirée. C'est comme si Dieu lui-même l'avait écrit, en d'autres termes. Il y a différents styles littéraires en passant. Et certains vont se servir de ça. Ah, la Bible donne dit telle chose, c'est pas vrai, c'est scientifiquement impossible. On est en 2025. On dit encore en 2025, le soleil se lève à telle heure puis se couche à telle heure. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui, le soleil se lève pas puis se couche pas. Et pourtant, on emploie encore cette expression-là. Donc oui, dans la Bible, il y a des choses comme ça, qui sont scientifiquement erronées. Parce que c'est volontaire, ça fait partie du langage. La Bible s'adresse à qui? À des êtres humains. Fait qu'elle prend le langage des êtres humains. Surprise aujourd'hui, hein? Donc oui, c'est tout à fait normal. Il n'y a absolument rien d'aberrant ou de pas correct dans ça. Et 16e point, les méthodes d'interprétation. Donc je ne rentrerai pas dans les détails et ces techniques. Mais on peut l'interpréter de façon littérale. Il y a aussi des passages, la poésie, des psaumes, c'est de la poésie, etc. Donc, connaître le contexte, connaître les façons d'interpréter va nous aider à voir les bonnes doctrines. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est complète et qu'il faut rajouter des choses. Bien sûr, elle est complète. On peut faire confiance à des gens. Il y a des gens qui l'ont étudiée pendant toute leur vie. Et en passant, petite parenthèse, je demande à mes jeunes de lire la Bible. Et une réponse que j'ai eue à un moment donné, je la connais déjà. Hein, on a entendu des histoires à l'école du dimanche, ou même, ils l'ont déjà lu au complet quelques reprises, mais certaines histoires choisies, disons. Donc, en un an, il lisait la Bible, mais pas toutes les histoires au complet de couvert à l'autre. Donc, pour lui, il connaît la Bible. On peut la lire à tous les jours, la lire en un an, de couvert à l'autre, pendant des années, 80 ans, et en apprendre encore. C'est un trésor inépuisable. Pourquoi? Une des raisons pourquoi c'est un trésor inépuisable, c'est parce que ça, c'est la parole écrite, mais on a aussi la parole vivante. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous fait découvrir des nouvelles choses à chaque fois. Donc, c'est inépuisable. On n'a jamais fini de la découvrir, puis de la relire. Puis plus qu'on la creuse, plus qu'on apprend des choses. Donc, une première lecture superficielle, une deuxième lecture, on va comprendre d'autres choses qu'on n'a jamais compris, puis etc., etc. Donc, ça finit jamais. Ce n'est pas pour vous décourager que je dis ça. Au contraire, c'est vivant. C'est actuel. Donc, voilà, ça fait le tour des doctrines. J'espère que ça vous a aidé à renforcer certains aspects d'un fois dans votre croyance, dans votre vie chrétienne. D'autres, peut-être que ça peut amener à l'Évangile même, c'est mon espoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à aller voir aussi Stéphane, le pasteur, qui nous a dit un petit mot tantôt. Donc, je pense que tout le monde le connaît ici. Bien, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Puis, on va terminer avec le petit dessert. Il reste un chant. Donc, je vous laisse.